Et maintenant, la parole à Jean-Pierre Mercier.
Camarades, je n'ai pas besoin de vous rappeler la situation qui est la nôtre à l'usine de PSA d'Aulnay. Nous savons tous ici que cette situation n'est pas spécifique à Peugeot, que cette entreprise ne représente pas un cas à part. Ce que nous vivons à Aulnay, c'est ce que des centaines de milliers de travailleurs vivent dans tout le pays, et je devrais même dire dans tous les pays. Et même aux travailleurs, qu'il n'a pas encore été annoncé que leur entreprise fermait ou supprimait toute une partie des emplois, savent bien qu'ils ne sont pas à l'abri. Dans ce capitalisme en crise, aucun travailleur n'est à l'abri. Et la peur du chômage, plus ou moins proche, plus ou moins concrète, est certainement le sentiment le plus largement partagé au sein du monde du travail aujourd'hui. Mais pour nous, que l'on soit travailleur du groupe PSA, de Sanofi, de Fralib, filiale d'Unilever, c'est-à-dire des trusts employant des centaines de milliers de salariés, ou d'entreprises plus petites comme Sodi Medical ou Roto 93, où l'on doit seulement à quelques dizaines essayer de faire face à une fermeture, eh bien la situation est la même, l'angoisse qui serre le ventre est la même, et les conséquences seront les mêmes si les entreprises ferment. Ce sera demain le chômage, après-demain peut-être le RSA et la misère. Alors, puisque tous les travailleurs sont frappés de la même façon, il faudra bien qu'ils contre-attaquent de la même façon et tous ensemble pour imposer purement et simplement l'interdiction de tous les licenciements. Il est vrai qu'à l'annonce du plan de licenciement de 8000 travailleurs dans le groupe PSA, et de la fermeture de l'usine d'Aulnay, l'émotion a été importante dans l'opinion publique, à cause de l'importance de ce plan, bien sûr, à cause du fait que PSA est une entreprise milliardaire, et aussi à cause du fait qu'a éclaté, à la face de la population, le cynisme de ses patrons, leur facilité à mentir, sciemment, et à considérer qu'ils sont au-dessus de tout, y compris de la plus élémentaire honnêteté. Souvenez-vous, il y a maintenant 15 mois, lorsque la CGT de l'usine a publié le plan secret de Varin annonçant dans les moindres détails la fermeture de l'usine. Souvenez-vous des mines offusquées des patrons, la main sur le cœur, à la télévision, devant la presse, devant les députés, devant les ministres. Nous, fermer Aulnay ? Jamais. Ce n'était qu'une hypothèse de travail, une hypothèse qui n'a pas été retenue, un scénario qui n'est pas à l'ordre du jour. Et pendant toute cette année, mois après mois, semaine après semaine, alors que nous, à l'usine, nous voyons bien qu'ils appliquaient inéluctablement leur plan à la lettre, eh bien ils continuaient de mentir, sans se démonter. Ils continuaient d'affirmer que la fermeture n'était pas à l'ordre du jour, jusqu'à ce jour du 12 juillet 2012, où d'un seul coup, la direction annonçait non seulement que l'usine d'Aulnay, avec ses 3600 travailleurs, serait fermée, mais qu'il y aurait au total 8000 suppressions d'emplois dans l'ensemble du groupe PSA, dont 1400 licenciements à l'usine de Rennes. S'il y a au moins une leçon à retenir de cet épisode, et ce n'est pas ça qui nous étonnera, c'est que la parole d'un patron, ça vaut strictement rien du tout. Commencer à faire confiance à une promesse de patron, c'est déjà poser la tête sur le bio. Et s'il y a une autre leçon bien plus générale à retenir, quelque chose qu'il n'est pas possible d'imposer dans le cadre d'une seule entreprise, c'est qu'il faut soumettre ces gens-là au contrôle des travailleurs et au contrôle de toute la population. Parce que la décision qu'ils viennent de prendre, au-delà des 8000 travailleurs et leurs familles, frappe aussi les travailleurs de tous les sous-traitants qui vivent des commandes de Peugeot. Et cette décision est encore plus dramatique en Seine-Saint-Denis, département déjà ravagé par le chômage, où PSA est la seule grande usine qui embauchait, car elle va toucher toute la population. Lorsque Varin a fait son annonce, Montebourg s'est agité quelque temps en répétant que le plan de licenciement était inacceptable en l'état, propos vaguement repris par Hollande lui-même. Mais si les travailleurs de Peugeot ont eu droit à quelques discours de compassion, le premier geste réel, concret du gouvernement, c'est la création d'un plan automobile offrant aux patrons des centaines de millions d'euros d'aides publiques supplémentaires sans leur demander la moindre contrepartie en termes de garantie du maintien de l'emploi. Depuis l'annonce du plan de licenciement, la direction de l'entreprise répète qu'elle n'avait pas le choix parce que les ventes de voitures baissent et que le marché de l'automobile se rétrécit. Les ventes baissent, nous disent-ils ? Oui, un peu. Mais elles baissent par rapport à quoi ? Par rapport à des chiffres historiques, à des records absolus battus l'année dernière et l'année d'avant. Il n'y aurait plus de cash, comme ils disent. Mais du cash, il y en a eu assez pour que Peugeot éponge en un an la quasi-totalité de ses dettes, rembourse le prêt de 3 milliards et se paye, rien que pendant l'année 2011, pas moins de 44 entreprises qu'elle a rachetées. Vous imaginez un ménage qui dit ne plus gagner d'argent, ne plus avoir de rentrée, mais qui d'un seul coup, non seulement solde avec 15 ans d'avance le crédit sur sa maison, 3 ou 4 crédits à la consommation, et en plus s'offre 3 ou 4 yachts pour faire bonne mesure. Eh bien, c'est dans cette situation qu'est la famille Peugeot. Et même comme ça, il en reste encore beaucoup dans les caisses de PSA, puisque Varin, le PDG, a avoué que l'entreprise était assise sur un matelas financier de 12 milliards d'euros. Pour ses ministres et ses députés, toutes tendances confondues, ce qui compte, ce n'est pas l'intérêt des travailleurs. Ce n'est pas ce que coûtera à la société tout entière la mise au chômage de milliers de travailleurs de PSA et des milliers de travailleurs chez les sous-traitants et les fournisseurs. Ce qui compte, c'est ce que veulent les patrons. C'est ce que veut la toute-puissante famille Peugeot. Et ce qu'elle veut, je le répète, ce n'est ni sauver l'entreprise, ni encore moins sauver les emplois et tous ses autres salariés comme elle ose le prétendre. Ce qu'elle veut, c'est augmenter ses profits. Et pour quoi faire ? Pour investir ? Pour construire de nouvelles usines, selon le principe répété jusqu'à la nausée par les socialistes des années 80, selon lesquels les profits d'aujourd'hui sont les emplois de demain ? Allons donc. Même un enfant de 5 ans ne croirait plus dans ces balivernes. Les profits, les dividendes déversés par centaines de millions pendant des décennies, la famille Peugeot les utilise en partie pour assurer son train de vie et surtout pour spéculer. Lorsque les porte-voix de la famille Peugeot insistent sur ses difficultés dans l'automobile, ils mentent doublement. D'abord parce que le secteur automobile continue en réalité à lui dégager des bénéfices, mais aussi parce que la famille Peugeot a des actions dans bien d'autres secteurs que l'automobile. C'est ce que, en grand bourgeois qu'il est, Thierry Peugeot appelle, je cite, « des poires pour la soif ». Ces poires pour la soif, c'est 5% de la société d'autoroute Sanef, 25% du trust du nettoyage Honnêt, des actions dans l'aéronautique dans le groupe Zodiac, le petit électroménager Seb, les maisons de retraite Orpea, les sondages d'opinion Ipsos, et pour la bonne bouche, un petit vignoble de Sauternes, ça fait toujours du bien. Question liquidité, 114 millions d'euros dans un fonds de placement canadien qui sert, qui ne peut servir qu'à la spéculation. À la radio, cette semaine, l'historien officiel de la famille Peugeot, Jean-Paul Loubet, expliquait avec des trémolos dans la voix que la famille, je cite, « a toujours préféré l'entreprise à l'argent ». On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, tant les deux sont liés, mais tout de même, présenter cette famille d'exploiteurs comme une famille d'entrepreneurs aussi philanthropes que désintéressés, ça, c'est un peu fort. Rappelons tout de même que, indépendamment même des revenus de leurs capitaux, indépendamment de la fortune boursière qui se monte encore, malgré la chute du titre, à 1,3 milliard d'euros, indépendamment de la fortune personnelle amassée par la famille depuis deux siècles, eh bien, un Robert Peugeot, dit Bob, qui ne s'intéresse pas à l'argent, donc, a touché en guise d'argent de poche en 2011, resté assis, 425 000 euros pour la présidence du conseil de surveillance de PSA, plus 90 000 euros de jetons de présence par réunion, près de 650 000 euros, j'en perds ma, pour la présidence de la holding financière FFP. Et comme cet homme-là aime peut-être plus l'entreprise que l'argent, mais qu'il préfère quand même les safaris en Afrique à l'entreprise, eh bien, il a fallu encore augmenter le montant des jetons de présence de la FFP de 47 à 64 000 euros pour qu'il daigne se rendre un peu plus régulièrement aux réunions du conseil d'administration. Alors, c'est pour ça que des milliers de travailleurs devraient être jetés à la rue. C'est pour ça qu'un département entier va se voir ravagé par le chômage. Eh bien non, il n'y a aucune raison de l'accepter et on ne l'acceptera jamais. La fermeture de l'usine d'Aulnay n'est pas fatale. Au sein même du groupe PSA, il est particulièrement évident que la seule solution de bon sens, la seule solution qui soit conforme aux intérêts des travailleurs et de toute la société, ce serait de répartir le travail et les productions entre toutes les usines, sans baisse de salaire, évidemment. Jeter au chômage des milliers de travailleurs, d'un côté, et surcharger de travail les milliers d'autres qui resteront dans les usines, ne convient qu'aux intérêts des actionnaires. Dans l'ensemble des usines de PSA, la charge de travail augmente depuis des années. Sur les 7 dernières années, 20 000 emplois ont été supprimés alors que la production n'a pas cessé d'augmenter. Avec tout ce que cela signifie d'accélération du rythme des chaînes de production, de fatigue et d'usure supplémentaire pour les travailleurs. La direction explique que Peugeot est en surcapacité et que toutes les usines ne peuvent pas tourner. Peut-être ne peuvent-elles pas tourner à 100% de leur capacité, mais elles peuvent très bien tourner à 70%. 80%. Au lieu de faire tourner l'usine de Poissy, par exemple, à fond, jour et nuit, comme le fait PSA, il est tout à fait possible, techniquement, de répartir la production de C3 entre cette usine et celle d'Aulnay-sous-Bois. Au lieu d'imposer des cadences folles, des pauses de plus en plus limitées, il est tout à fait possible de baisser le rythme de travail. C'est l'intérêt vital de tous les ouvriers, c'est l'intérêt des sous-traitants, c'est l'intérêt de la population d'Aulnay et des villes alentours. Seul s'y oppose l'intérêt des actionnaires, à commencer par le milliardaire Peugeot. Alors tout ça, ça ne se réalisera que si les travailleurs ont la force de l'imposer. Évidemment, merci camarade, évidemment, la répartition du travail entre tous, sans diminuer les salaires, cela demande un financement. Mais l'entreprise a de quoi y faire face avec ses 12 milliards de trésorerie. Et même si elle ne le pouvait pas, derrière l'entreprise, il y a la fortune personnelle des actionnaires et leurs milliards accumulés. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y toucher. Nous, les travailleurs, si on est licenciés, on perd tout. Si les actionnaires finançaient le maintien de l'emploi, il leur en resterait suffisamment pour leur safari en Afrique. Alors ils doivent payer, un point c'est tout. Mais jamais la famille Peugeot n'acceptera cela de son plein gré, et bien sûr, jamais le gouvernement ne lui imposera. Alors nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes, sur notre force collective. À nous tout seuls, à Aulnay, nous n'avons sans doute pas la force d'imposer la répartition du travail et d'empêcher la fermeture d'une usine. Mais si on devait nous obliger à vendre notre peau, eh bien nous la vendrons la plus chère possible, ça c'est garanti. Je le disais tout à l'heure, le cas PSA n'est pas un cas à part. Dans une seule entreprise, même si elle regroupe encore des milliers de salariés, on ne peut pas gagner des batailles décisives contre le patronat. Oui, il faudra une lutte d'ensemble, une explosion collective où toute la colère accumulée en silence depuis des années sortira. Seule une telle lutte, du niveau de la grève générale de mai-juin 36, pourra faire suffisamment peur au patronat et à l'État pour que soient enfin à l'ordre du jour les seules mesures qui peuvent sauver le monde du travail de la chute dans la misère, la répartition du travail entre tous et l'interdiction de tous les licenciements. Alors nous sommes conscients que nous ne sommes pas encore dans cette situation. Mais pour ce qui nous concerne, nous, travailleurs de PSA, nous ferons tout pour que la direction ne parvienne pas à exécuter complètement son plan. Nous ferons tout pour qu'aucun d'entre nous se retrouve à faire la queue à Pôle emploi. Nous espérons, nous souhaitons, si nous parvenons à nous défendre et à imposer à la direction un certain nombre de garanties, que notre lutte fasse tache d'huile. Toutes les grandes luttes de la classe ouvrière dans le passé ont forcément commencé grâce à quelques-uns qui, par conscience ou bien plus souvent poussés par la nécessité, ont été amenés à se battre. Et nous savons qu'en nous défendant, en défendant notre droit légitime à un emploi et à un salaire, eh bien nous nous battons pour un objectif qui concerne en réalité, bien au-delà des murs de l'usine d'Aulnay, l'ensemble du monde du travail. Alors camarades, courage, et la force des travailleurs, c'est la grève.
Donc,